France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Si demain il nous restait 19 minutes avant qu'une bombe atomique tombe sur notre pays, comment sommes-nous capables de réagir? La réponse technologique, la réponse militaire, les défaillances humaines, tout cela est raconté dans le film de Catherine Bigelow, A House of Dynamite, qui cartonne sur Netflix. Et surtout, il y a 1000 questions sur ce qu'un tel scénario donnerait dans la vraie vie, la nôtre. On en parle avec Michel Goya dans un tout petit instant. Est-ce que les électeurs démocrates se rebiffent aux États-Unis? Il n'y a pas que New York qui tacle le président Trump, c'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Envoyer les délinquants étrangers dans des prisons au Kosovo avant de les renvoyer dans leur pays d'origine. La double peine façon Danemark que vous découvrirez dans le reportage d'un jour dans le monde.
Cet accord prévoit un financement à 200 millions d'euros. Les lois danoises y seront appliquées, mais bien sûr, les gardiens seront Kosova.
Et c'est Louis Seyé qui a pu visiter l'une de ces prisons, vous y serez aussi. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé l'Australie où une faucilla invente un code de la route avec de fausses règles. Et puis écrire Le Monde d'Ilana Mor-Youssef avec un prix Nobel de littérature privé de visa pour les États-Unis. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Current flight trajectory is consistent with impact somewhere in the continental United States.
Holy shit.
19 minutes to impact.
Here. Oscar Foxtrot 4916.
Sergeant, you're doing fine. We've trained for this a million times. You're good.
Bonsoir Michel Goya.
Bonsoir.
Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, Monsieur Goya. Vous êtes consultant régulier sur LCI. Votre dernier livre s'appelle Théorie du combattant. C'est publié chez Perrin. L'extrait qu'on vient d'entendre de A House of Dynamite, donc c'est le moment où on comprend qu'il reste 19 minutes pour agir. Sinon, une bombe va tomber quelque part à ce moment-là. On ne sait pas où, sur les États-Unis. Et on a choisi ce moment, on y reviendra, parce que à la fois, c'est là que se met en branle un protocole hyper rodé dont vous allez nous parler, mais où apparaissent aussi les faiblesses humaines, parfois les failles. On entend un peu la panique au moment d'annoncer les codes prévus. On va prévenir ceux qui nous écoutent, on va spoiler, divulgacher dans le quart d'heure qui va suivre. Et puis parler aussi peut-être quand même de ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque les États-Unis viennent d'informer la Russie du lancement d'un missile intercontinental balistique. Enfin, on a l'impression que la réalité, parfois, et la fiction ne sont pas loin. Alors, ça reste une fiction, là, évidemment, Michel Goya, mais le postulat de base, c'est qu'un missile part sans qu'on sache d'abord pourquoi et où il va attaquer. D'abord, est-ce que ça, c'est crédible? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir, y compris chez nous, sur nous, une attaque sans qu'aucun warning avant ne soit allumé, sans qu'il y ait des lumières rouges qui clignotent un peu partout?
Alors, c'est un petit peu, c'est la faiblesse quand même du scénario, hein, du film.
C'est ce qui doit nous rassurer, en fait. On passe pas de DEFCON 1, alerte 1, à 4.
Ah, c'est l'inverse.
De 4 à 1, pardon.
Oui, on passe pas du ciel, le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Bon, alors, c'est pas complètement impossible, mais c'est quand même extraordinairement improbable. On n'imagine pas qu'il y ait quelque chose avant qu'il se passe une situation de crise, une montée en puissance, une escalade, etc., qui provoque quelque chose.
Peut-être que c'est ce qu'on espère, non, Michel Goya, qu'on aura ces signes avant-coureurs, ce qui permettra d'éviter d'arriver là où nous en sommes au moment où démarre le film.
Oui, alors il peut, comment dire, si on fait des références à d'autres films célèbres comme Docteur Folamour, ouais, ou Point Limite, qui, ouais, est sorti la même année, on a un point de départ qui est, pour le coup, c'est aussi un coup de tonnerre d'un ciel bleu. C'est un, ouais, bombardier américain qui, de trop sur l'ordre, attaquait l'Union soviétique et qui, d'un seul coup, et qu'on ne peut pas rappeler. Ouais, quoi. Ouais. C'est une erreur, bon. Mais c'était possible, ouais, un peu faible, probabilité très faible, mais possible. Là, en réalité, on ne comprend pas la logique. Si ça vient de la Corée du Nord, la Corée du Nord, pourquoi est-ce que la Corée du Nord va d'un seul coup décider d'envoyer un missile pour détruire une ville, sachant que de toute façon, la Corée du Nord sera détruite dans la foulée.
Ouais.
Et ceux qui auront décidé de faire ça seront tués dans la foulée.
Mais parce que c'est une folie, et peut-être que c'est ça justement qui est fascinant dans ce film, mais fascinant aussi dans le monde qui nous entoure. Nous le savons, c'est une folie. Mais peut-être que c'est comme ça que ça arrivera un jour, en fait.
Oui, mais c'est ça tout le drame. C'est-à-dire que c'est tellement une folie que, du coup, la probabilité que ça survienne est faible, parce que tout le monde, personne n'a, a priori, envie de basculer dans cette folie. Et en même temps, elle est là. C'est-à-dire que sa probabilité est très faible, mais elle n'est pas nulle.
Près de cette phrase, paraît-il, à Obama, d'ailleurs, au moment de répétition, parce qu'il y a toujours, oui, des répétitions pour voir si les protocoles sont au point. Il paraît bien qu'il s'arrête à un moment et qu'il fait, mais enfin, tout ça n'a aucun sens. Et on lui répond, oui, ça n'a aucun sens. Mais on continue, on poursuit. Après, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que donc on comprend assez vite que c'est d'un sous-marin nucléaire que les choses viennent. Ce qui est assez fascinant, c'est que moi j'ai l'impression qu'on met un temps considérable à comprendre où est l'origine, en fait. Oui. Est-ce que ce temps considérable vous paraît beaucoup trop long par rapport à la réalité, ou est-ce que c'est ça, effectivement, le nerf de la guerre? Est-ce qu'il faut qu'on entre dans nos crânes? Quand ça vient d'un sous-marin nucléaire, ce qui est la très grande probabilité, il y aura ce temps, cette latence immense, en fait.
Oui, parce que par définition, le sous-marin, on ne sait pas où il est. Autant des missiles qui sont lancés depuis des silos, bon, ils sont surveillés. Il y a quasiment un satellite qui est dédié pratiquement sur chaque site. Là, un sous-marin, c'est un peu plus flou. Mais a priori, on décèlera le départ assez rapidement. En revanche, oui, c'est l'origine du lanceur qui a décidé quel est le pays qui a décidé de lancer ce missile. C'est peut-être un peu plus flou. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film.
Exactement. Il y a quelque chose qui a frappé tous ceux qui l'ont vu également, c'est que donc on lance évidemment un autre missile pour essayer de taper celui qui va en l'occurrence écraser Chicago, puis ça rate.
Oui.
Et moi j'ai appris en regardant ce film que ce genre de missile, dont j'imagine que nous en avons aussi.
Non,
d'accord, c'était ma deuxième question, mais donc on n'en a pas, nous.
Non, seuls les Américains. Il faut bien comprendre la difficulté de la chose. Hein. C'est-à-dire qu'un missile intercontinental qui va frapper un autre pays, il y a une phase de lancement, donc on le voit, on voit ces images d'une fusée qui part dans le ciel. Il arrive au moment dans le vide, dans le grand vide, très très, très haute altitude, où là, il va à plusieurs kilomètres par seconde. Et après, il va rentrer dans l'atmosphère, où certainement, d'ailleurs, il va éclater en plusieurs projectiles, etc. Et c'est une troisième phase. Mais dans la phase où dans le grand vide, hein, des milliers de kilomètres d'altitude, où ça va très vite, c'est extraordinairement difficile d'abord de le repérer, de le suivre et d'aller le percuter. Ouais. C'est-à-dire que même si vous envoyez quelque chose exploser à proximité, on abat des missiles ou des avions dans le monde normal, là, en envoyant un objet exploser à proximité, là, l'explosion est trop lente pour le missile. Donc il faut aller... En réalité, la seule solution, c'est d'aller le percuter. Donc c'est essayer d'attraper une balle, stopper
dans
une balle
vide,
avec une balle.
Une balle avec une balle. Mais là, donc j'ai appris...
C'est très difficile.
Exactement. Et donc moi, j'ai appris qu'il y avait 60% de chance seulement que ça réussisse, ça veut dire quand même qu'il en reste 40 derrière. Après, du coup, je me suis interrogée pour savoir pourquoi on n'en envoyait pas 5 d'un coup.
Ah ben oui, non, mais ça, c'est une vraie question.
Mais parce que j'ai cru comprendre aussi que... j'entends quelqu'un dans ce film dire, dites donc, ça coûte quand même très très cher. Donc en fait, on fait gaffe au cas où il y aurait une autre attaque derrière. Non, mais c'est ça que ça veut dire.
Oui, c'est ça. D'abord, il n'y a que les Américains qui disposent de ce type de missiles, on appelle les GBI, les intercepteurs tirés depuis le sol. Ils en ont de mémoire, ils en ont une quarantaine disponibles. Donc c'est à la fois peu et pas beaucoup. C'est-à-dire que même sur une face, une frappe massive, ça ne sera pas suffisant. Mais là, sur une frappe ponctuelle, effectivement, vous lancez deux objets, hein, il y en a deux qui sont tirés, avec 60% de coup au but, je ne sais pas, moi, j'en enverrai quatre, quoi, quand même. Tant pis, si on épuise un peu le stock, ça va sauver 10 millions de l'an.
Alors, si les Américains sont les seuls à en avoir, les Russes aussi, j'imagine ?
Non.
Non plus. Les Américains sont les seuls à en avoir ?
Oui.
Dans le monde, les Américains sont les seuls à pouvoir intercepter une bombe nucléaire qui tombe.
Oui, de fait... Oui, pratiquement, oui. Alors, on travaille sur des missiles intercepteurs, qui sera plutôt dans la couche, lorsque ces engins arrivent, dans la couche atmosphérique. Ça, on peut éventuellement avoir des choses, mais la probabilité est malgré tout assez faible. Pour l'instant, très simplement, c'est très difficile d'intercepter un objet qui va à 10 fois, 15 fois la vitesse du son, quoi.
Et puis il y a cette histoire du riposte aussi qui m'a frappée. On n'arrive pas à savoir effectivement au tout début donc d'où est originaire ce missile. Donc on essaye coup de fil avec les Russes, coup de fil avec les Chinois, etc. La question que je me posais, c'est si dans les protocoles nucléaires, est-ce que ça marche comme ça également pour nous? Au fond, la riposte doit être aussi rapide que la tentative d'interception. Alors, j'ai compris qu'on n'interceptait pas, nous, puisqu'on n'en avait pas. Oui. Mais est-ce que ça doit vraiment aller de pair, en fait? Ou est-ce qu'on attend de savoir... pourquoi on n'attend pas de savoir avec la grande certitude? Ou est-ce que c'est justement parce que la vraie crainte, c'est qu'il y en a un autre qui arrive immédiatement derrière?
Oui, ou qu'il y ait plutôt une vague massive de missiles qui arrivent. Oui, c'est un vrai dilemme. Mais maintenant, à partir du moment où vous avez un missile qui est lancé, vous n'allez pas l'arrêter. Bon, de toute façon, c'est foutu. Mais après, vous n'êtes pas obligé de riposter immédiatement dans la foulée. Vous pouvez prendre le temps, et c'est aussi un problème que l'on voit, c'est au moins de prendre contact avec les autres, avec les Russes, avec les Chinois, en l'occurrence, c'est dire, mais attendez, un, c'est pas vous, c'est vous, c'est pas vous, et deux, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et surtout, si je tire, parce que le problème, c'est que tous ces tirs, ça se fait dans les espaces des uns et des autres. Donc, si j'envoie des missiles, les missiles américains, ils passent généralement par-dessus le pôle Nord, et ils passent dans l'espace russe.
Exactement.
Donc, voilà, le missile qui va passer chez vous, c'est pas pour vous, rassurez-vous. Donc, ça demande un peu de dialogue avant.
Mais on voit la réponse des Russes à ce moment-là, et je me demandais si ça, c'était vraiment fidèle à ce qui pourrait être une réalité. Les Américains qui pensent effectivement que c'est la Corée du Sud disent aux Russes, si on vous passe dessus, Corée du Nord, pardonnez-moi, si on vous passe dessus, donc vous verrez passer le missile, mais ne faites rien parce que c'est pas pour vous. Et on entend le Russe répondre, pardon, mais si j'ai un missile qui me passe dessus, moi je m'en fous, j'y vais, je tire. Ce que ça veut dire, Michel Goya, c'est que, enfin, on parle beaucoup de dissuasion, on parle de tout ça en ce moment, mais en réalité, la dissuasion s'arrête à la seconde où le premier missile est parti. Et ensuite, si on suit ce raisonnement-là, et vous avez l'air de penser qu'il est crédible, dès lors qu'un premier est parti, franchement, c'est la fin des haricots, quoi.
Ou pas. Ou pas.
Sauf si on sauf si on décide de ne pas riposter. L'angle, c'est vraiment ça.
Alors, on ripostera toujours. Une puissance nucléaire attaquée nucléairement, on ripostera toujours. La vraie difficulté dans la décision de l'emploi nucléaire, c'est de tirer en premier, en fait.
Ouais.
Une fois qu'on est attaqué, la question ne se pose même plus. Il faut riposter. Maintenant, est-ce qu'on va riposter de manière proportionnelle? C'est-à-dire qu'il y a un missile qui est parti, bon, ben, on va en lancer un, en espérant peut-être que les choses vont se calmer, que ça s'arrêtera là. Ou est-ce qu'on décide, au contraire, de lancer une attaque massive, on envoie tout, pour essayer, au contraire, de réduire autant que possible la menace future, pour empêcher qu'il y ait, pour le coup, une vague ou d'autres missiles qui arrivent, en essayant de détruire autant que possible les sites de lancement, les sous-marins, si on les a repérés, etc. Mm-hmm. Tout ce que l'on peut détruire de l'ennemi. Donc ça, c'est un vrai dilemme, sachant que si on envoie une salve de missiles intercontinentaux, il y aura forcément, évidemment, des effets sur la cible, c'est le but recherché, mais un petit peu aussi sur les voisins, quoi. Mm-hmm. Et on revient sur le survol, sur les retombées radioactives qui vont taper tout le reste. Donc il vaut mieux faire ça en accord avec les voisins.
Ça plaide pour évidemment une réduction des armes nucléaires. C'est évidemment le propos de Bigelow dans ce film, même si on sait bien qu'une seule suffirait probablement à nous anéantir tous. Et quand je le disais tout à l'heure au début de notre conversation, les États-Unis informent la Russie qu'effectivement il y a eu un lancement de missiles incontinentaux. Oui. Enfin, est-ce qu'on est en train de recommencer réellement, Michel Goya, à faire des essais nucléaires? Et ça a l'air surréaliste de vous poser cette question en même temps qu'on a cette conversation-là.
Alors, ce sont des essais de vecteurs nucléaires.
Ouais,
attention,
bien sûr.
Ce ne sont pas des essais d'armes nucléaires.
Non, on est d'accord.
Oui, mais c'est un thème qui a été réévoqué très récemment. Non, là, on teste des vecteurs nucléaires. Donc là, les Américains testent un de leurs missiles intercontinentaux tiré depuis le sol, un Minuteman 3, mais qu'ils ont depuis 50 ans, les Minuteman 3. Donc, de temps en temps, ils testent leur fiabilité, quoi. Ils voient si ça marche encore. Maintenant, oui, on est un peu obligé quand même d'avertir un peu les autres quand on lance des missiles dans l'espace, pour éviter justement le scénario que l'on évoquait tout à l'heure. Donc, on dit, voilà, attention, on va envoyer un missile, rassurez-vous, c'est un exercice. Voilà, mais ce qui est vrai, c'est qu'on se sert aussi maintenant de tous ces tests, qui sont assez réguliers en fait, mais on en parlait assez peu. Mais là, on en parle parce qu'on utilise ça de manière politique.
J'ai été assez, en parlant de politique, assez fasciné par la réponse du Pentagone après le film de Bigelow. Oui. La réponse, elle n'est que politique, en fait. Parce que ce qu'il dit, c'est non, mais ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas se passer comme ça, mais on sent bien dans cette réponse que c'est politique. Et du coup, quand on entend cette réponse, on se dit, oh, bah, s'ils répondent comme ça, c'est donc que c'est possible, en fait.
Ben oui, bien sûr que c'est possible, mais il y a toujours, comment dire, il ne faut pas stresser l'opinion, hein,
d'autant plus
que vous avez un président qui a été élu sur l'idée qu'il allait protéger complètement les Américains, qui a lancé un grand programme, le Dôme Doré, de perfectionnement de ce bouclier défensif. Au passage, s'il a besoin de le perfectionner, c'est que justement, ben, il n'est pas parfait, et qu'il peut laisser, il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Mais oui, cette réponse du Pentagone est assez logique, mais il s'agit de rassurer. Mais en réalité, je ne sais pas si on peut beaucoup rassurer en termes de guerre nucléaire, autrement qu'en disant que on a de quoi riposter.
On ne
sera pas attaqué parce qu'on a de quoi riposter.
J'ai une toute petite question dernière, on a déjà dépassé le temps. Michel Goya, il y a quelque chose de fascinant dans ce film, c'est aussi la réponse humaine, les hésitations, y compris celles du président. Je me demandais si dans les protocoles, enfin dans les grands classeurs et les grands cahiers plastifiés, où on sait voici la réponse, 1, 2, 3, 4, 5, il y avait un pourcentage qui disait pourcentage humain. Donc voilà ce qui peut changer parce qu'il y a ce facteur humain.
Eh bien, forcément, oui.
Mais c'est pris en ligne de compte, quoi, je veux dire.
Oui, mais la particularité de ce type de crise, c'est que ça vous tombe dessus très vite. Donc, il faut une décision très centralisée, je veux dire. On ne va pas faire un débat au Parlement, au Congrès, pour décider de quoi que ce soit. Donc, ça dépend très vite d'un seul individu qui doit prendre une décision très rapide. Alors, le mieux, c'est... Alors, dans mon livre, je décris des gens qui vont dans la zone de mort, quoi, qui pénètrent une zone où on se transforme physiquement. Là, c'est la zone de mort qui tombe sur des gens en l'espace de quelques minutes. Et donc, ça aboutit aussi aux mêmes transformations humaines, etc. Et donc, le facteur humain devient absolument essentiel. D'où l'intérêt, peut-être aussi, un petit peu, d'avoir, de s'être un peu préparé avant, de s'être un petit peu entraîné aussi, même techniquement, à ce genre de situation.
Ouais, écoutez, souhaitons qu'on n'en ait pas besoin. Je croise les doigts, je vous remercie mille fois. Michel Goya, merci de votre passage chez nous. Je voudrais dire que le film dont est inspiré le film est signé Annie Jacobsen, très fortement recommandé par l'ami Stéphane Jourdain. Il paraît qu'il y a trois missiles qui tombent, et c'est donc une autre mayonnaise.
Voilà, là, dans le film, il n'y a que 20 minutes, le livre, c'est une heure.
Et votre livre, à vous, je le rappelle, s'appelle « Théorie du combattant » et c'est publié chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La suite, c'est vous, c'est le monde à l'endroit. Remettez-le en l'endroit, je vous en supplie. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir, je vais vous parler du maire de New York, Zoran Mamdani, nouvel espoir d'une gauche mondiale qui s'emballe.
Allez, juste après ça. You tell me life is better when you're with me. You're right. I've been hurt so bad, you're not meant to be. My life lets you see the whole truth in my smile. So I'm lucky that I get to call you. C'est dans la playlist de France Inter. Le monde a dans l'endroit, c'est Louise Baudet. You don't have the cards.
The world has changed. Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et ce soir, vous vous posez cette question, Louise, pourquoi la Mamdani mania des médias, accessoirement de la gauche française aussi, est peut-être un peu excessive?
Ah, il serait l'anti-Trump, celui qui, tout à coup, redonne de l'espoir à la gauche mondiale, phare de la radicalité dans un océan ultra-réactionnaire. Pensez donc, un socialiste musulman aux commandes de New York, ville symbole du capitalisme mondialisé, encadrement des loyers et taxation des riches en bandoulière. New-Yorkais, comme Donald Trump, as, lui aussi, de la com, et des réseaux, le double inversé du président américain en somme, et la promesse d'un affrontement spectaculaire. Logique donc que Zoran Mamdani fasse la une des médias et le bonheur de la gauche française. Sa victoire est celle d'une gauche de rupture et la promesse que la radicalité paie se réjouit LFI, pendant que le PS se sent parfaitement en phase avec Mamdani, un socialiste, je cite, à la sauce américaine et pas un insoumis.
Alors chacun son Mamdani, donc on l'a bien compris, mais est-ce que c'est pas tirer un peu vite les leçons d'une élection qui reste une élection locale ?
Eh oui, New York est peut-être une ville monde, mais le monde n'est pas nécessairement à son image. C'est une ville historiquement démocrate, déjà dirigée dans les années 2010 par un maire très à gauche, Bill de Blasio, dont le mandat n'a rien changé à l'accession de Donald Trump à la Maison Blanche, ni à l'orientation idéologique du Parti démocrate. Les recettes qui fonctionnent à New York peuvent ne pas être applicables ailleurs. La victoire de Zoran Mamdani est certes sans appel et portée par une participation record, mais ce n'est pas lui qui fera tomber Donald Trump à la prochaine présidentielle ou empêchera un autre républicain de lui succéder, car il ne peut pas être candidat à la fonction suprême n'étant pas né aux États-Unis.
Par ailleurs, Donald Trump, évidemment, va tout faire pour lui savonner la planche.
Oui, le président américain a d'ores et déjà promis de bloquer le versement de certaines subventions fédérales à la ville de New York. Et avant même de peser, Zoran Mamdani va devoir s'accrocher pour s'installer et durer. Par ailleurs, les républicains s'apprêtent à l'utiliser comme repoussoir dans la grande bataille des midterms qui s'engage. Élection demi-mandat dans un an. Le camp trumpiste est bien décidé à cibler le nouveau maire de New York et à le présenter comme le visage d'un parti démocrate extrémiste. Diabolisation déjà à l'œuvre pendant la campagne municipale où Mamdani a déjà été traité de communiste, une insulte aux États-Unis.
Et puis le nouveau maire de New York n'est pas le seul démocrate à avoir gagné une élection la nuit dernière.
Effectivement, d'autres scrutins ont été remportés par des démocrates et par des tenants d'une ligne modérée, comme les nouvelles gouverneurs de Virginie et du New Jersey. Une autre victoire cruciale a été remportée en Californie par Gavin Newsom, figure lui aussi de l'anti-Trumpisme. Les électeurs ont autorisé un redécoupage de la carte électorale favorable aux démocrates. Pas sûr donc que la seule radicalité socialiste l'ait emporté la nuit dernière aux États-Unis. Peut-être est-ce plus simplement l'opposition à Donald Trump, même incarnée par des figures plus classiques du Parti démocrate. Usé, vieilli, fatigué, celui-ci n'est pas mort. Et la victoire de Mamdani ne règle pas le problème de la ligne que les démocrates vont devoir choisir quand il leur faudra s'unir derrière un candidat pour 2028.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde qui est au Kosovo, ce soir devenu un sous-traitant de la politique migratoire de l'Europe. L'histoire commence au Danemark, où les sociaux-démocrates au pouvoir comptent désormais appliquer pour leurs délinquants étrangers une double peine inédite avant de les expulser vers leur pays d'origine. Copenhague veut les envoyer dans les prisons du Kosovo, avec lequel il a signé un accord de 10 ans. Ce n'est pas un cas isolé. En dépit de la législation européenne, des projets de ce type se multiplient dans les Balkans. Nous sommes à Djilan, dans le sud du Kosovo, et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Perché sur une colline sans arbres, juste au-dessus d'un village et de sa mosquée, la prison de Djilan surplombe la deuxième ville du Kosovo. Une fois passés les portiques et les grilles de sécurité, le bruit des clés des gardiens résonne dans des couloirs particulièrement propres.
Je suis Ismail Debrani, le directeur du système pénitentiaire du Kosovo.
Les autorités kosovares jouent la transparence et elles ouvrent les portes de cette prison modèle ouverte en 2016.
D'après l'accord que nous avons signé, 300 prisonniers venus du Danemark seront transférés dans cette prison de Djilan. La prison sera administrée à travers une co-gouvernance entre Danois et Kosovars. Les lois danoises y seront appliquées, mais bien sûr le staff sera kosovar puisque les gardiens seront kosovars. Cet accord prévoit un financement à 200 millions d'euros.
Selon l'accord ratifié à une large majorité par le Parlement, les cellules de la prison de Djilan devraient prochainement héberger des détenus non danois, mais condamnés par la justice danoise à 2000 km du Kosovo. Ils seront ensuite renvoyés dans leur pays d'origine.
Ces transferts ne concerneront pas les personnes condamnées pour extrémisme religieux ou terrorisme. Ce seront principalement des condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison et ils seront originaires de pays tiers.
À quelques kilomètres de la prison, le projet danois n'anime pas vraiment les conversations du centre piéton de Djilan. Mais dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe, dont l'indépendance est toujours contestée par le voisin serbe, beaucoup de Kosovars approuvent le projet. Comme Arben Recepi, 52 ans, téléopérateur pour une entreprise allemande.
200 millions d'euros, ce sont des revenus importants pour le Kosovo. Et c'est toujours le bienvenu. Et puis c'est aussi intéressant d'un point de vue diplomatique. Ces accords bilatéraux sont très importants pour le Kosovo.
Un optimisme que ne partage pas Zarife Aslani. Pour cette psychologue sociale de 38 ans, le petit pays des Balkans n'a rien à gagner avec cet accord.
Ces 200 millions d'euros, ça aurait été mieux de les investir autrement. Moi je sais que les Danois ou un système de santé et une économie qui fonctionnent bien, pourquoi ils n'ont pas développé des projets dans ces secteurs? Pour nous, pour Gilan et le Kosovo, ce n'est pas un bon accord. Il ne nous apporte aucun investissement réel.
Comme plusieurs pays membres de l'OTAN, le Danemark a soutenu la construction du nouvel État kosovar. Les autorités de Pristina présentent cet accord comme un moyen de rembourser une dette historique et de conforter ses soutiens internationaux. Ces arguments sont entendus au sein d'une société jeune, pro-occidentale et tournée vers l'Europe.
Je m'appelle Festim et j'ai 23 ans. Dans le passé, de nombreux pays européens ont beaucoup aidé le Kosovo. On doit montrer que le Kosovo est prêt à collaborer avec l'Europe et qu'on peut faire des choses nous aussi en tant qu'État du Kosovo. On reste un État peu connu et cet accord contribue à la reconnaissance du Kosovo.
Au Danemark comme au Kosovo, les ONG s'inquiètent pour le respect des droits des personnes concernées et elles alertent sur les zones d'ombre qui entourent l'accord. Plus généralement, les défenseurs des droits humains dénoncent la multiplication de ces projets controversés dans les Balkans occidentaux. Surtout que les 6 pays de la région sont tenus à la porte de l'Union européenne depuis plus de 20 ans. La chercheuse en relations internationales Donika Emini dénonce une dérive honteuse.
Ces accords transforment les Balkans en dépotoirs des pays riches qui font ici ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. C'est vraiment très problématique et hypocrite, par exemple de la part du Danemark, qui est toujours en tête des classements internationaux pour son respect des droits humains.
Les premiers détenus en provenance de Copenhague ne sont annoncés que pour début 2027, mais déjà, les autorités kosovares affirment que de nombreux pays comme la France ou la Belgique se sont renseignés pour pouvoir, eux aussi, louer des places de prison au Kosovo.
Louis Seyer, merci beaucoup. La suite dans Un jour dans le monde, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Guillaume Audat.
En Équateur et en hélico, l'armée contre les cartels pilleurs de métal jaune.
Et puis avant 19h, Ilana Mor Youssef qui lit et relit la littérature qui nous éclaire sur la planète.
Est-ce que être privé de visa pour les États-Unis, c'est la fin du monde? C'est ce qu'on va voir avec l'écrivain nigérian prix Nobel de littérature, Wole Soyinka.
Allez, merci beaucoup, à tout de suite. Nous allons en Lituanie, chez Alina Orlova. Ça s'appelle Vaidio Klia et c'est le choix musical de Djoubaka. Elle s'appelle Alina Orlova. Comment passer sous les radars et aller y chercher l'actualité internationale qui nous a échappé? Demandez à Guillaume Audat.
Ministère de Défense autorise la destruction de l'objectif. Procède.
Ah oui, ça pourrait ressembler à la bande-son d'un film qui vient de sortir. Pas du tout. On est en Équateur, Guillaume, où l'armée déclare la guerre aux mines illégales.
Ça n'est pas du cinéma, mais avouez qu'il y a quand même du niveau. On se croirait dans Platoon ou Rambo, il y a des explosions, des hélicos, il y a de la techno latina, des soldats sur le pont. Ce clip vidéo est l'œuvre du ministre de la Défense équatorien, Giancarlo Lofredo, accessoirement businessman, ceinture noire de karaté et youtubeur, un homme très inspiré par ce qui se fabrique désormais du côté des États-Unis quand on met en scène l'action des forces armées. Cette opération, elle a un nom, Tormenta de Fuego, tempête de feu, et elle cible la Chonta dans le sud de l'Équateur où des militaires ont évacué des habitants, rasé les installations clandestines et bombardé 12 hectares de mines illégales à coups de mortiers et d'avions Tucano, des mines d'or pillées par qui ? Par les cartels, et contre lesquels lutte avec férocité et d'ailleurs en dépit des ravages écologiques le président Noboa qui lui court après sa réélection.
2 weeks since its launch in the US, Sora 2 is already making headlines.
I'm a dog!
The fake videos were created using OpenAI's tool Sora. The Screen Actors Guild.
Phares allumés obligatoires, même en plein jour, gros syntox au code de la route. En Australie, les IA sèment la pagaille.
Et si la semaine prochaine, Fabienne, vous baladez avec votre Ford Mustang, et Dieu sait qu'elle est belle,
c'est
sur
vrai.
Les routes australiennes, sous un soleil brûlant et les phares éteints, ça peut arriver. Eh bien non, vous ne risquez pas de vous faire arrêter par la maréchaussée et de prendre 250 dollars d'amende. Pourtant, une grande partie des quelques 19 millions d'automobilistes australiens y a cru à cette salade, une rumeur générée par une intelligence artificielle. Ça, c'est classique, maintenant on connaît le coup, sauf qu'elle a été référencée par Google. Et ça, c'est nettement plus problématique dans la mesure où le moteur de recherche le plus utilisé de la planète, elle est aussi utilisée parce qu'il est fiable, parce qu'il est robuste. Alors, je vous épargne les subtilités du code de la route australien. Là-bas, chaque État a sa propre législation. Là où cette histoire est un cas d'école, c'est qu'on dépasse désormais les frontières du fake. Les IA fabriquent des infos crédibles. Elles peuvent berner les algorithmes de Google. Prenons garde, recoupons, vérifions les informations et résistons à la dictature du plausible.
Est-ce que je peux la voir rouge, ma Ford Mustang ?
Bien entendu.
Allez, on finit la tête dans les... Donc je disais qu'on finissait la tête dans les étoiles, retour à journée pour 3 astronautes chinois. Ils devaient rentrer sur Terre ce mercredi, ben c'est raté.
Voilà, ils ont évité la catastrophe, hein. Ces 3 bons hommes qu'on a entendus juste avant leur décollage en avril dernier. Une fusée, de la musique encore, un clip de l'aérospatiale chinoise Tiangong. Nous voilà, Tiangong c'est le nom de la station orbitale chinoise où ils séjournent depuis 6 mois. Et ils risquent d'y rester encore un peu dans l'espace, ces astronautes. Leur capsule a été percutée par un minuscule débris spatial, une sorte de caillou cosmique, assez dangereux tout de même pour tout faire basculer. On en a parlé ici il y a quelques jours, la pollution spatiale, c'est un énorme enjeu. Plus on envoie de satellites, plus on envoie de fusées vers les cieux et plus on produit de déchets spatiaux. Alors dans cette affaire, transparence, il faut le dire, des autorités chinoises qui ont communiqué cette information. La sécurité des équipages passe avant tout. Un vaisseau de secours est prêt sur Terre. Au cas où, dans la course aux étoiles, la Chine joue son prestige. Elle vise la Lune d'ici 2030. Et ce soir, d'ailleurs, c'est la super Lune. Les cheveux, je vous ai entendu tout à l'heure.
Oui, absolument, le coiffeur. Koyomoda, merci beaucoup. À demain. Écrire le monde quand la littérature rencontre l'actualité internationale. Ilana Mouriouzef.
France Inter.
The Mas Clubes de Lectura.
The newest selection of John's book club.
Un jour dans le monde.
Ilana, la semaine dernière, Wole Soyinka, c'est comme ça que ça se prononce ?
Ça se prononce comme ça, oui.
Premier auteur africain à recevoir un prix Nobel, c'était en 86, a annoncé que le consulat des États-Unis à Lagos avait annulé son visa. Je tiens à assurer le consulat que je suis très satisfait de l'annulation de mon visa, c'est ce qu'a dit l'écrivain lors d'une conférence de presse. Et voilà une histoire peu banale qui a éveillé votre curiosité.
Oui, en effet, rien n'est banal dans cette affaire. Un prix Nobel de littérature de 91 ans, privé de visa, et qui se déclare très satisfait de cette annulation. Ça m'a amusée et j'ai eu envie de savoir qui, quoi, comment, pourquoi. Parce que jusqu'à présent, je l'avoue, je connaissais le nom de Wole Soyinka, mais je n'avais jamais rien lu de lui. J'ai d'abord essayé de savoir ce qui lui avait valu les foudres de l'administration américaine. J'ai retrouvé sa conférence de presse de la semaine dernière. C'est un festival, ça dure 26 minutes. Je ne peux pas tout vous faire écouter, mais je vous la recommande. Il explique qu'il a reçu une lettre d'amour venant de l'ambassade, et puis il y a cet extrait où il s'interroge, enfin plus exactement, il fait semblant de s'interroger sur les raisons de l'annulation de son visa américain.
Je me suis demandé si j'avais commis un crime. Puis je me suis souvenu que j'avais parlé de Donald Trump comme d'une version blanche de Idi Amin. Vous savez, c'est très difficile de faire plaisir aux dictateurs. J'aurais pensé que ça lui ferait plaisir. Idi Amin était un homme de stature internationale, un homme d'État, un démocrate de première catégorie. Il se qualifiait lui-même de libérateur. Il libérait tout le monde, partout. Il a même libéré certaines personnes de leur propre vie, pour les envoyer vers des lieux sans retour. Donc, quand j'ai comparé Donald Trump à Idi Amin, je pensais lui faire un compliment.
Voilà un écrivain qui a le goût de l'impertinence, Ilana, et on imagine évidemment que ça ne doit pas plaire à Trump, ça.
Pauvre Donald Trump, s'il s'était intéressé deux minutes à Wole Soyinka, il aurait tout de suite compris qu'il faut bien plus qu'un visa annulé pour l'impressionner. Déjà, dans les années 60, pendant la guerre du Biafra, le Biafra avait déclaré son indépendance et voulait faire sécession du Nigeria, Wole Soyinka a passé 27 mois en prison, dont 21 au secret. Il a voulu jouer les médiateurs dans cette guerre civile, il a appelé à un embargo sur les armes pour les deux parties. Ça n'a pas plu aux autorités qui l'ont fait arrêter à la sortie de l'université. Plus tard, il a publié un récit de cette période passée en prison. Ça s'appelle « Cet homme est mort ». C'est une reprise d'une citation grecque qui dit à peu près « Cet homme est mort qui ne se dresse pas face à la tyrannie ». Dans le passage que je vous propose d'écouter, Soyinka demande à voir son médecin. On lui refuse, on lui impose un médecin choisi par les autorités. Ce n'est pas le passage le plus dur de ce récit, mais il montre bien que même en situation d'infériorité, alors qu'il est en état d'arrestation, Soyinka réussit à imposer un rapport de force.
Rhabillez-vous, dit-il. Et maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous désireriez avoir? Vous savez, je suis leur médecin. Si un ordre vient de moi, ils sont obligés de l'exécuter. Y a-t-il un régime alimentaire particulier que vous aimeriez que je recommande? N'importe quoi. Je suis là pour vous aider, vous savez. Je le regardais, sentant monter en moi le désir de lui cracher à la figure. Mais finalement, je souris. Je n'ai pas besoin de nourriture. Je jeûne la moitié du temps. Mais j'ai besoin de vêtements. Je n'ai que ceux que je porte en ce moment. Et il fait très froid, certains soirs. Bien, 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 murmura-t-il comme si je lui avais accordé une faveur. Et il se mit à écrire comme un enragé. Rien d'autre ? Vous êtes sûr que vous n'aimeriez pas une nourriture spéciale ? Je me levais. Dehors, dans la rue, je m'arrêtais et je me tournais vers D. Je veux que vous sachiez que je ne me suis laissé examiner qu'en protestant. Pour moi, c'est une grande humiliation. Cela m'a donné la nausée d'avoir à me laisser examiner par cet homme. Et je proteste contre cette humiliation. Dans certaines circonstances un peu anormales, le toucher devient une chose personnelle, intime, psychique, émotionnelle et intellectuelle. Être touché par un mouchard protégé par la bannière médicale, et par un spécimen d'un genre particulièrement répugnant, être touché, inspecté, palpé par ce genre d'individu est un acte dégradant.
C'est Loïc Frapsos qui assure la lecture, merci à lui. Wole Soyinka, donc, Ilana ne s'est pas arrêté là?
Non, dans les années 90, alors qu'il était déjà prix Nobel de littérature, il a aussi été condamné à mort au Nigeria, toujours sous la dictature militaire de Sani Abacha, comme le raconte son amie et traductrice Christiane Fiupou.
Soyinka a dû s'enfuir du pays dans les années 95 pour avoir pris parti pour Ken Saro-Wiwa, qui était écrivain et éditeur, qui avait été pendu haut et court avec 8 autres militants écologistes. Soyinka avait dit dans la presse que Abacha était un bouffon meurtrier. Soyinka a été condamné à mort par Abacha. Soyinka a dû s'enfuir par la route, sur une mobylette. Ensuite, il a eu un passeport des Nations Unies. Je l'avais rencontré à ce moment-là. Il y avait des gardes du corps autour du restaurant où nous mangions, tout simplement parce qu'il était vraiment menacé physiquement par les sbires d'Abacha qui étaient prêts à le suivre jusqu'en Europe.
Et à son retour d'exil, il a écrit une pièce où il se moque d'Abacha en particulier et des dictateurs en général, une pièce inspirée du Burroi. Elle s'appelle Babouroi. Alors vous pensez bien qu'arriver à 91 ans après une vie pareille, ce n'est pas une annulation de visa qui va l'empêcher de dormir.
Voilà, si vous avez eu envie de lire cet ouvrage dont on parle, Cet homme est mort, signé donc Wole Soyinka, traduit de l'anglais par Étienne Gall, disponible aussi dans la collection Point Seuil. Vous avez 8 secondes, Ilana.
Oui, je voudrais remercier les professeurs Christiane Fiupou et Guillaume Saint Saint-Gall pour leurs conseils.
Et merci beaucoup, à la semaine prochaine, le 18-20, la suite, c'est journal de 19h avec Céline Asselot, et puis le téléphone sonne. Philippe Lefébure, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Pourquoi prendre le temps d'apprendre une langue, puisque l'IA le fait pour nous?
Bah oui, c'est vrai, j'ai déjà le message de Benoît qui trouve que l'IA traduit très mal les sketchs de Benny Hill. Enfin, bon, je suis pas sûr qu'on fasse la soirée dessus. Pierre, je parle plusieurs langues. Apprendre une langue n'est pas seulement apprendre des mots, c'est se plonger dans la vie d'un pays. C'est la langue, c'est le témoin d'une façon de vivre.
01 45 24 7000.